philo. Henri-Marc Mutel, Chantal Le Montagnier, Loïc Frapsos et Djoubaka, quatuor de choc et surtout de soutien pour cette heure que nous allons passer ensemble avec Roger Paul Droit, auteur d'un voyage dans les philosophies du monde. C'est un livre qui vous prend par la main en vous expliquant l'essentiel des philosophies, alors indiennes, chinoises, juives ou arabes. Que faut-il retenir d'essentiel? Quels textes lire? Quels mots-clés vous viendront en aide? Et puis, bien une chronologie. Et ça, c'est bien utile.
France Inter. L'heure philo. Patricia Martin.
Bonsoir Roger Paul Droit.
Bonsoir.
Avec vous, grâce à vous, nous allons appréhender donc une philosophie de l'ailleurs, méconnue souvent et parfois mal comprise. Alors ma question, si vous le permettez, sera personnelle. D'où vous vient ce goût pour les philosophies autres que grecques et européennes ?
Ben ça se confond ce goût avec finalement une large partie de l'histoire de mon itinéraire. Que je voudrais peut-être raconter en deux mots.
Allez-y.
Pas parce que c'est le mien, mais parce qu'il me paraît exemplaire de ce parcours et de parcours finalement suivi par beaucoup sans en sortir comme moi j'en suis sorti. C'est-à-dire que, comme Descartes dit, j'ai fait les meilleures études du monde, je ne me prends pas pour Descartes, mais après tout, j'ai fait de très bonnes études, j'étais cagneux à Louis le Grand, je suis entré à Normal Sup Saint-Cloud,
encore
j'ai
mieux.
Passé l'agrégation de philosophie, Et je me suis retrouvé à la trentaine en étant estampillé bon pour le service de l'enseignement, en étant prof de philo dans différents lycées, etc. Et en étant convaincu de ce que m'avait dit mes bons maîtres, quand on est un bon élève, eh bien on suit ce que disent ses maîtres, qu'il n'y avait de philosophie que grecque, européenne, occidentale, que dans la filière des Grecs, la philosophie était cette seule spécificité d'un usage de la raison qui avait aussi donné la recherche scientifique et qui était la rationalité appliquée à tout, au concept, à l'existence et à la conduite de sa vie, à la connaissance, à l'examen critique des pensées, de la religion, etc. Et ailleurs, nous avait-on dit, Heidegger dit par exemple qu'il n'y a pas de philosophie indienne, que c'est comme de l'acier en bois, que la philosophie parle grec et allemand et c'est tout, etc. Et je croyais cela, et donc j'étais convaincu qu'il y avait ailleurs des tas de choses respectables, c'est pas de grande sagesse, des spiritualités,
de la poésie, de la
tragédie, parfois des etc. Mais pas de philosophie. Mmh. C'était uniquement chez nous, si j'ose dire, en tout cas en Occident. Et il s'est trouvé, c'est un peu par hasard, que en essayant de commencer à cet âge-là à chercher des choses qui pouvaient m'intéresser, sur quoi je voulais travailler. J'ai commencé à bricoler des choses un peu personnelles sur l'existence ou l'inexistence du moi, de l'ego, sur la réalité illusoire ou tangible du monde extérieur. Enfin, des choses qui étaient finalement un peu abordées par la philosophie que je connaissais, mais peu. Et j'ai découvert que chez les bouddhistes et chez les logiciens bouddhistes, par exemple, il y avait un océan de textes, des dizaines de traités, des bibliothèques entières qui avaient développé ces questions, mais pas du tout, comme on me l'avait dit, sur une manière intuitive, poétique, aphoristique.
Indigène, en fait.
Oui, enfin, c'est-à-dire comme si vous voulez, l'usage de la rationalité et des outils de l'argumentation était une histoire simplement européenne et qu'ailleurs personne n'avait fait ça. C'est pas vrai. Il existe en sanskrit des dizaines et des dizaines de traités de logique qui ressemblent fort à ceux d'Aristote, sans aucun lien chronologique, et qui commencent en disant pour faire son salut, il faut de la logique, mais derrière, il y a 500 pages de logique.
Et d'où les ponts que vous établissez, et qui sont nombreux, c'était sur France Culture, Myriam Septi, elle parle d'Avicenne.
Avicenne n'est pas platonicien, et il s'inscrit dans la lignée d'Aristote dans la mesure où pour lui il n'y a pas d'inéisme, c'est-à-dire que l'intellect, lorsque l'homme vient au monde, il a un intellect qu'on appelle matériel. Pourquoi matériel ? La matière, c'est ce qui est impossible, c'est ce qui contient du non-être, c'est ce qui est donc vide de tout et qui se remplit de forme. Donc, lorsqu'il naît, l'homme ne doit acquérir la vérité, il doit perfectionner son âme par l'activité philosophique. Nous sommes certes corps et âme et nous sommes tournés vers le sensible, et si nous avons un corps, et là on retrouve le croyant, si nous avons un corps, si Dieu qui sait tout nous a donné un corps, c'est que nous en avions besoin. Le corps ne correspond pas à une chute dans le monde. Donc là, nous sommes très loin des théories gnostiques et platoniciennes et néoplatoniciennes. Et donc, la vie humaine est ce qui nous est donné pour atteindre au vrai et nous perfectionner en tant que substance intellectuelle. Et donc, le monde sensible est ce qui nous conduit à la vérité, mais évidemment bon, par un travail d'abstraction, par un travail propédeutique.
Alors nous allons faire précisément de la propédeutique avec vous, c'est-à-dire nous allons approfondir le sujet. Est-ce qu'il faut finalement, c'est assez éclairant ce que Myriam Septi dit, est-ce qu'il faut élargir au fond les limites de la philosophie pour aborder les philosophies de l'ailleurs, comme vous l'avez fait, pour qu'il n'y ait plus précisément de philosophie des barbares ? Est-ce que c'est parce que notre conception à nous est finalement trop restreinte ?
Il y a eu une clôture qui est finalement récente. Vous savez, je salue Myriam Septi, que je connais un peu, puisqu'on était dans le même laboratoire au CNRS. Et les 25 ans que j'ai passés au CNRS, où je travaillais sur les représentations des philosophes autres à l'intérieur de l'Occident, soit représentations négatives, soit découvertes à travers l'Inde, le bouddhisme, etc., et aussi les représentations des barbares, et des barbares philosophes, ce qui est un paradoxe, parce que, si vous voulez, pour les Grecs, on a oublié qu'il y a tout un sens de barbare qui veut dire simplement étranger. Et on voit Hérodote admirer les Égyptiens, Platon dire grand bien des Égyptiens aussi, les armées d'Alexandre avec les élèves des Cyniques aller chez les Indiens. On voit Sénèque parler des Indiens, on voit les néoplatoniciens parler des mages de Chaldée et d'essayer d'harmoniser Platon avec ce qu'il croit savoir des oracles chaldaïques. Tout cela, ça montre une chose, c'est que cette coupure que nous croyons tellement évidente entre philosophie d'un côté avec les Grecs, et puis sagesse, mystique, illumination ailleurs, elle est absolument inopérante pour les Grecs. Quand ils parlent des prêtres égyptiens, ils disent philosophes. Quand ils parlent des mages de Chaldée, ils disent les philosophes. Quand ils parlent des Indiens, c'est des philosophes. Même quand, avec certains auteurs plus tardifs, ils découvrent les druides, ils les appellent philosophes.
Au fond, partout où les humains exercent leur réflexion, il y a une philosophie.
Exactement. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, justement, c'est de montrer comment il y a des raisonnements, il y a de la déduction, il y a toute une série de travail sur les concepts dans des contextes très différents, qui peuvent être des contextes linguistiques, géographiques, historiques, spirituels, religieux.
Culturels, si on veut.
Culturels, voilà. Il y a bien évidemment des tas de contextes distincts, mais il y a toujours un travail qui est celui, à mes yeux, de la philosophie, par deux caractéristiques centrales. D'abord, il y a des questions qui sont d'une certaine manière, ou des thèmes qui sont d'une certaine manière toujours les mêmes, c'est-à-dire la nature du temps, la nature de l'espace, la nature de la réalité, la place de l'humain dans le monde, ses possibilités de salut, la question de l'au-delà, la question du gouvernement politique, etc. Les réponses peuvent être extrêmement diverses, mais les questions sont transversales. Et puis, et surtout, il y a des outils qui sont les mêmes, et qui sont les outils de la rationalité. Il n'est pas vrai qu'il y ait d'un côté des philosophes qui manient bien le principe de non-contradiction et puis les règles de la logique, et puis de l'autre, des espèces d'indigènes illuminés pour qui un cercle pourrait être carré, ou je ne sais quoi. Vous voyez, il y a là quelque chose qui s'est clos. alors j'insiste, de manière tout à fait récente. C'est le XXe siècle qui a fermé cela. Le XIXe a commencé un peu, mais il est encore traversé par tous les débats sur l'Inde, l'admiration des romantiques, les fascinations et répulsions aussi, mais pour le bouddhisme, qui est
Mais c'était habité. Quoi, en fait, le est-ce qu'il y avait un but là-dedans? Est-ce que c'était une... Vous parliez d'Heidegger tout à l'heure, mais il y a aussi Hegel, il y a Husserl, enfin bon, est-ce que c'est aussi la reconstruction, au fond, d'une Grèce triomphante? Est-ce que c'est ça qu'ils ont
oui,
voulu
bien
faire
sûr. Mais alors, c'est un épisode historique tout à fait intéressant que j'ai essayé d'étudier de près. J'y ai travaillé une bonne dizaine d'années, j'ai fait deux livres là-dessus, je ne vais pas vous en faire des tartines. Mais c'est simplement que jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, jusqu'au siècle des Lumières, et même au début du XIXe, vous avez une ouverture de la philosophie qui remonte aux Grecs, qui traverse le Moyen-Âge, l'âge classique, et la grande histoire de la philosophie des Lumières. L'Historia Critica de Jacob Brucker. C'est une histoire monumentale qui est lue par Diderot, par Goethe, par Hegel lui-même, par Kant. Enfin, c'est la grande référence du siècle des Lumières et du début du XIXe. Il s'ouvre, cette histoire s'ouvre par 300 pages sur, intitulée Philosophia Barbara, c'est-à-dire philosophie barbare, où il est question, de façon non péjorative, de la philosophie des Chinois, des Indiens, des Perses, etc. Et c'est absolument courant. C'est-à-dire l'idée que il n'y ait de philosophie que grecque, c'est pas une idée grecque, c'est pas une idée classique, c'est une idée tout à fait récente et moderne, et cette clôture est elle-même difficile à expliquer, elle est liée, me semble-t-il, pour une part, pas seulement, mais pour une part aux impérialismes et aux grands empires coloniaux. C'est-à-dire que on dirait, finalement, que les philosophes modernes ont la tête à peu près formatée comme un colonel de l'armée britannique des Indes, où il y a de la rationalité, c'est nous, et puis les indigènes, eh bien, ils baignent dans des superstitions parfois très jolies, mais pas du tout rationnelles.
Un voyage dans les philosophies du monde avec vous, Roger Paul Droit, jusqu'à 21h. Un tromboniste, un guitariste et un joueur de tsouras, le groupe s'appelle Monsieur Doumani, ils sont chypriotes et ils chantent une chanson dont le titre m'est absolument impossible à dire. Το πισούρι είναι ξεφάκα σαν για να ψανουρανεί Εκούς έντους έμανε και διώξε τα στήσια Στον άλαβρο στήσια λόγω την νύχτα φορέσια Εγκουράσια με φορέσια Στη ξυπάσια σου ζητή φιλόσια Thank you. traducteur et orientaliste germaniste, iranologue, arabisant, c'était en 1957 Henri Corbin.
Il est regrettable que cette catégorie de savants que forment les philosophes orientalistes n'ait été représentée jusqu'ici en Occident qu'à un très petit nombre d'exemplaires. Si pour le jeune étudiant occidental en philosophie, l'idée du XIIIe siècle par exemple, ou du XVIe ou du XVIIIe siècle, évoque des noms multiples et des écoles prestigieuses, il est à craindre en revanche qu'il soit pris le coup, si l'on s'avise de l'interroger par exemple, sur l'importance du XIIe siècle en Iran pour l'histoire de la philosophie, de la spiritualité. Et pourtant, quelle extrême richesse et quelle diversité nous offre la culture spirituelle iranienne à la veille de la tempête mongole. À l'extrême-orient du monde iranien, dans le Khwarezm, le soufisme, sous l'impulsion du grand maître Najmuddin Kubra, prend une orientation toute nouvelle, approfondissant une mystique spéculative qui le diversifie radicalement des premiers ascètes de l'islam qui avaient pris le nom de soufi.
Alors, propos savants hein, que ceux d'Henri Corbin, il faut dire d'ailleurs que la façon de dire a beaucoup changé. Hein. Roger Paul-Droit, est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que les philosophes orientaux, qui soient inspirés d'Aristote, Platon ou pas, versent, grosso modo, hein, c'est à la louche ce que je vous dis, hein. J'espère que ça ne va pas vous faire partir, soit dans la spiritualité, soit dans la médecine. Si vous prenez le cas de Confucius, donc un humaniste actif, Avicenne, médecin, guérisseur, qui a eu quand même un rôle fondateur, Avicenne.
Oui, mais attendez. Guérisseur, je dirais non. À mon avis,
alors médecin,
pas
je
du
retire
tout.
Médecin, guérisseur.
Oui,
alors,
parce médecin. Que...
Nous... Homme politique aussi, d'ailleurs.
Oui, alors là, c'est parce que la figure de l'intellectuel, que ce soit dans le monde arabo-musulman médiéval, ou dans le monde juif médiéval, parce que un grand... auteur comme Maïmonide, par exemple, on a pu dire de lui qu'il pense grec, il écrit en arabe et il prie en hébreu. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a là quelque chose...
C'est un conteur aussi, on va l'entendre tout à l'heure.
Voilà, or, que ce soit Maïmonide, Avicenne, Averroès, ils ont été tous, juifs ou musulmans, médecins. Et c'est simplement parce que l'idée, si vous voulez, que l'on se fait du savoir, est une idée encyclopédique, à la fois spéculative et pratique. De la même manière, ils étaient très souvent chargés de missions diplomatiques ou de conseils pour le gouvernement. Le savoir n'était pas cloisonné comme il est pour nous aujourd'hui.
Donc en fait, ce que j'ai dit relève d'un préjugé, en quelque sorte.
C'est pas un préjugé, c'est le fait, si vous voulez, que Aristote, qui est leur maître à tous, il a fait à la fois des dissections et des traités de biologie, où vous pouvez savoir comment digère un poulpe, et puis des travaux sur l'astronomie, et puis la métaphysique comme philosophie première, et des traités de logique, qui sont l'organon, c'est-à-dire l'outil avec lequel penser. Les cloisonnements et la séparation des disciplines et les spécialisations, ça c'est une affaire beaucoup plus des temps modernes que de cette période. Et ce qui compte, si vous voulez, c'est surtout qu'il faut, je crois, clairement distinguer d'abord des Orients. Ouais. Vous savez, c'est Victor Cousin à la Sorbonne en 1828 qui a cette phrase que j'adore. Il dit « Messieurs, il y a plus d'un pays dans l'Orient ». Bon, c'est pas du tout la même chose selon les langues. Et la langue chinoise n'est évidemment pas la langue arabe. Le sanskrit en Inde est cousin du grec, ce qui n'est pas du tout le cas de l'arabe et de l'hébreu. Il y a des différences linguistiques, il y a des différences de contexte, de civilisation. Et puis, il y a le fait que chacun de ces domaines a ou non un lien au grec. Ça n'est pas la même chose d'être... comme l'ont été les grands penseurs arabes ou juifs du Moyen-Âge, être en contact avec les traductions des Grecs. Il y a eu de grands mouvements, vous savez, de traductions sous les Omeyyades et surtout sous les Abbassides, qui ont fait...
Là, vous pouvez nous situer un tout petit peu les choses, parce que je disais tout à l'heure qu'il y avait une chronologie dans votre...
C'est à peu près, à si vous voulez, 8, 9, 10e siècle de notre ère.
De notre ère.
Les les Arabes ont conquis une large partie du monde méditerranéen et ils font traduire en masse des traités rédigés en grec, des bibliothèques entières, avec bien sûr Aristote, avec Platon, avec parfois aussi des petites erreurs d'attribution. Il y a des textes de Plotin qui sont attribués à Platon, il y a des textes...
Platon.
Voilà. Oui, mais enfin, si vous voulez, c'est peu importe, on ne va pas entrer dans ce détail. Simplement, là, ils sont confrontés à la lecture directe des œuvres grecques et à la nécessité, non seulement pour eux, de les commenter, de les comprendre, mais aussi de les confronter avec la révélation coranique. Mmh. C'est ce que Henri Corbin a été un des premiers à montrer très bien. C'est ce que son successeur, celui qui aujourd'hui occupe la chaire qu'il avait à l'École pratique des hautes études, qui est Christian Jambet, qui a édité aussi des textes de Corbin, a très bien souligné. Il n'y a pas de contradiction entre la révélation, pour eux, et l'étude philosophique. Il peut y avoir des problèmes internes. Mais quand on parle, par exemple, pour ces auteurs, qui sont Al-Kindi, Al-Farabi, Averroès, Avicenne d'abord, Averroès, bon, pour les plus grands. Quand on parle d'islam des Lumières, de falsafa, qui est le mot arabe qui décalque exactement philosophie, eh bien, il ne s'agit pas, en parlant d'islam des Lumières, d'entendre, comme nous parlons de philosophie des Lumières, une sorte de critique radicale de la religion, une distance d'extériorité, une position d'extériorité. Au contraire, il s'agit pour eux d'être à l'intérieur de la révélation, mais de se servir de ces outils pour essayer soit de mieux comprendre.
Et pas toujours. Aristote, je crois, n'a pas compris tout à fait la métaphysique. Avicenne n'a pas compris la métaphysique d'Aristote du premier coup.
Oui.
Je crois qu'après, il a fini par la comprendre. Et Averroès a critiqué Avicenne.
Oui.
Enfin, tout ça est assez. Alors que lui, il a résumé l'œuvre d'Aristote. Mais je voudrais en revenir aux philosophies, par exemple, comme le bouddhisme. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas tendance à réduire ça, parce que c'est à la mode, à réduire à des pratiques? Et le bouddhisme, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué, c'est pas du tout simple à définir, c'est pas de l'ordre du concept, mais quand même c'est très difficile. Et puis il y a plusieurs bouddhismes. Par exemple, il y a un bouddhisme tibétain, il y a un bouddhisme indien, qui ne sont pas les mêmes.
Alors, ça c'est un autre univers qui est d'une certaine manière, si j'ose dire, transversal. S'il fallait prendre une métaphore, moi je parlerais volontiers d'une espèce de diagonale bouddhiste. Alors, en trois mots, on va essayer. Le bouddhisme, il naît en Inde, à l'intérieur d'une contestation indienne. Il ne faut pas oublier du tout, parce que sinon on ne comprend plus rien, que le bouddhisme est d'abord quelque chose qui vient, d'une certaine manière, contester certains aspects des dogmes indiens habituels et qui refuse pour une large part l'autorité des Védas, qui sont un livre qui se veut révélé. Et le bouddhisme, la façon la plus simple finalement de le définir, c'est de dire que c'est une doctrine médecine. C'est un pragmatisme, une sorte de thérapeutique où il s'agit non pas de comprendre intellectuellement, mais d'abord de faire. Il y a un « do it ». De nombreux textes comparent le Bouddha à un chirurgien qui veut d'abord éradiquer la douleur et le mal-être des êtres humains, leur rendre une forme de sérénité, de réconciliation, peut-être de salut profond. Et cela ne se fait pas par des voies intellectuelles seulement, mais nécessite effectivement une forme de pratique. Mais cette dualité, elle se poursuit parce que il y a deux termes bouddhistes qui disent cela assez bien. C'est d'un côté prajna et de l'autre dhyana. Prajna, c'est quoi? C'est la connaissance, la réflexion. Et elle est indispensable pour éliminer des idées fausses. c'est par le raisonnement, la réflexion, l'intelligence, et donc d'une certaine manière avec des outils philosophiques, que l'on va pouvoir dissiper des erreurs qui nous encombrent. Mais il faut aussi se recueillir, si vous voulez, en soi-même, dans le silence intérieur. Et Guy Bugeaud, qui était un des grands spécialistes de ces doctrines, comparait cela, comme d'ailleurs certains textes le font, à la position de la tortue. Quand la tortue rentre sa tête dans sa carapace, c'est dhyana, c'est la méditation interne, si vous voulez, l'expérience silencieuse. Et puis, quand elle sort la tête pour voir le monde et essayer de comprendre où elle est et ce qu'elle fait, c'est prajna, la sapience et la réflexion.
Stéphane Arguillère, qui est un spécialiste de l'histoire des religions et de l'anthropologie religieuse, il nous parle de l'éthique tibétaine.
L'éthique bouddhiste, telle qu'elle est conçue par les Tibétains, pourrait se diviser en deux registres principaux, dont l'un est subordonné à l'autre, en quelque sorte. Il y a une forme d'éthique qui consiste à prendre le contrôle de son propre esprit, et cela dans le contexte de ce qu'on appelle trois instructions, en sanskrit, shila, samadhi, prajna, c'est-à-dire la discipline éthique comme base, le recueillement méditatif, et comme fruit, le discernement, mais ces trois éléments s'appuyant l'un l'autre. Ça, c'est un registre. Mais l'autre, c'est cette fameuse éthique fondée sur la compassion, la bienveillance universelle, donc cette éthique de la culture de l'esprit d'éveil. Parce qu'il y a quelque chose là de tout à fait singulier dans le bouddhisme, en tout cas le bouddhisme dit du grand véhicule, c'est cette résolution que tout un chacun est amené à prendre d'atteindre l'état de Bouddha, c'est-à-dire, selon les bouddhistes, le degré le plus parfait de toute existence possible, et cela non pas pour la satisfaction que cet état comporte ou pour le simple fait qu'il est un état de perfection, mais parce que cette perfection est l'instrument qui permet de faire le bien d'autrui. Or, dans cette volonté de faire le bien d'autrui, dans le bouddhisme du grand véhicule, il n'y a absolument aucune espèce d'injonction, ni injonction divine, ni même commandement de la raison.
Prendre le contrôle de son propre esprit, et d'un côté, et cette volonté de faire le bien d'autrui. Sans aucune injonction, c'est ça. C'est peut-être là où le bouddhisme se distingue des autres religions. Religion étant là un terme approximatif.
Oui,
c'est-à-dire le bouddhisme ou des autres philosophies. Disons.
La singularité, c'est que le bouddhisme, il a commencé comme une philosophie, et il continuait comme une religion, d'une certaine façon. Bon, mais ça, c'est.
Mais le bouddhisme, c'est plus se délivrer de quelque chose que de connaître.
Alors, il y a une voie proprement philosophique de la délivrance. Mmh. Et ça, il faut, je crois, clairement y insister. Parce que l'auteur majeur dans ce domaine, c'est Nagarjuna, grand logicien bouddhiste de 2e-3e siècle de notre ère, qui a vécu en Inde, mais qui a ensuite été commenté pendant des siècles et des siècles au Japon, au Tibet, et qui est un grand fondateur d'école. Si j'en parle, et je vais m'essayer d'expliquer deux, trois points, c'est parce qu'il est arrivé depuis cet automne, dans la liste des auteurs du bac.
Oui, c'est ça, parce que maintenant, le bac s'ouvre aussi. On apprend, effectivement, on enseigne, en tout cas.
Il y a quatre de ces auteurs. On a parlé d'Avicenne, on a parlé de Maïmonide.
Ça, c'est nouveau.
Ils sont tous les deux dans la liste nouvelle des auteurs du bac, Nagarjuna également, et enfin Zhuangzi, qu'on appelait autrefois Chuang Tzu, qui est un penseur taoïste. Nagarjuna, quel est, si vous voulez, l'essentiel, je crois, à comprendre, c'est qu'il définit le bouddhisme, à la suite évidemment des paroles du Bouddha lui-même, comme étant la voie du milieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la voie du milieu? On peut comprendre de toute façon très simple, ça veut dire pas le luxe, mais pas non plus l'austérité, les mortifications. Pas le relâchement, ni la crispation. Bon, ça c'est simplissime. Mais philosophiquement, ça devient plus compliqué, parce que la voie du milieu veut dire aussi ni affirmation, ni négation, ni être, ni néant. Et vous voyez que là, on est dans quelque chose qui est plus...
On est quoi, dans le doute ?
C'est un scepticisme aux puissances X, effectivement. mais qu'il faut encore expliquer un petit peu plus. C'est que le travail, qui est un travail de logicien, un travail de dialecticien très minutieux et très construit de Nagarjuna, consiste à, en quelque sorte, paralyser la logique. J'explique ça en trois mots, j'essaye.
Vous dites le
temps existe. Ouais. Eh bien, Nagarjuna va vous démontrer que cela conduit à des contradictions. Donc, il utilise le principe de non-contradiction. Si c'est une contradiction, vous laissez tomber. Vous n'allez pas pouvoir dire que le temps existe. Rabattez-vous sur la thèse adverse. Le temps n'existe pas. Il va s'employer à vous montrer aussi que le temps n'existe pas. L'être, pareil, ça conduit à des contradictions. Le néant, ça conduit à des contradictions. Alors, on fait quoi? Vous allez dire, Nagarjuna, c'est quoi ta doctrine? Eh bien, il dit, tu te débrouilles. C'est rien. C'est la voie du milieu, c'est quoi? C'est la mise à l'écart des opposés. On balance l'existence du temps, on balance l'inexistence du temps. Et on reste dans la voie du milieu. C'est ça la vacuité. Ça veut dire que ni affirmation, ni négation, on met en suspens. Il s'agit d'en quelque sorte, et c'est très différent comme usage de la logique de celui des Grecs ou de l'Occident, qui utilisent finalement la logique pour accroître les connaissances. Là, il s'agit d'utiliser la logique, et très fortement et très puissamment, mais pour faire cesser la connaissance.
Sushila Raman sur France Inter, envoûtante Sushila.
Mm-hmm.
Roger Paul Droit est ce soir notre invité donc sur France Inter pour un livre intitulé « Un voyage dans les philosophies du monde ». Roger Paul Droit, vous parliez tout à l'heure du temps. Le temps existe-t-il ou n'existe pas? On s'était d'ailleurs déjà posé la question ici même avec notre premier invité, Étienne Klein. Chez les Chinois, alors là, c'est l'espace qui est vécu et conçu de manière très, très particulière. Et est-ce qu'il y a beaucoup de différences, d'écart avec la Grèce antique?
Oui, parce que il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé, même comme expérience personnelle, vécue. Vous savez, j'essaye de trouver dans ce livre des éléments de voyage mental, mais aussi accroché à des voyages réels, et une manière, finalement, d'entrer dans chacun de ces domaines, puisque c'est une explication et d'une certaine manière aussi accessible et simple que possible, mais aussi un voyage personnel. Je ne prétends pas que je puisse faire l'encyclopédie de toutes les philosophies du monde en 330 pages. Et donc j'ai essayé d'imaginer, pour chaque domaine, une sorte de porte d'entrée. Et c'est l'espace qui a été pour moi la porte d'entrée dans le domaine chinois, à partir de ma sidération, je dois dire quasiment physique, quand j'ai découvert le Temple du Ciel à Pékin. Il y a à côté le Temple des Récoltes, qui est un grand bâtiment, une sorte d'architecture comme ça sur plusieurs étages, tout à fait classique. Et le Temple du Ciel, c'est simplement une grande esplanade circulaire vide. Imaginez une 150 mètres à peu près de mémoire, pavé, et il n'y a rien. Et on est là, simplement, en quelque sorte, envahi, j'allais dire écrasé, mais en même temps transporté, traversé par l'espace lui-même.
Et ça, vous ne l'aviez... Donc c'est vraiment quelque chose que vous avez
vécu
et senti, et vous ne l'aviez jamais vécu auparavant. Cette impression-là...
Je ne m'étais jamais retrouvé dans un lieu qui était d'une certaine manière nommément dédié au ciel, sans avoir aucune architecture. Alors on peut avoir des sentiments d'immersion dans le pur espace, dans des tas, dans le désert, dans des lieux particuliers, dans de vastes plaines, ou peut-être au sommet des montagnes.
Mais c'est pas de l'architecture.
Voilà. Mais là, il y a quelque chose qui est, d'une certaine manière, une désignation de lieu qui est vide. Et ça m'a conduit, si vous voulez, il y avait aussi des expériences nombreuses que je faisais à Pékin avec ma compagne, où les gens nous disaient « Oh, c'est pas loin !» Et puis, un peu fatigué, jet-lagué, on prend un taxi, on roule une demi-heure à toute allure, et le type vous dépose. Et alors, j'ai fini par demander « Loin, c'est quoi ?» Vous voyez, les rapports à l'espace, aux distances,
C'est comme avec les Indiens, par exemple, on peut se dire, dans pas longtemps, c'est quand?
Voilà,
c'est
exactement. Oui, c'est ça.
Par rapport à nous.
L'Inde, c'est plutôt la question du temps qui m'a servi de porte d'entrée. Là, c'est la question de l'espace. Et ça se connecte à ce grand thème de la pensée et des philosophies chinoises, qui est la question du ciel. Confucius dit qu'il faut, d'une certaine manière, devenir comme le ciel. Or, le ciel, c'est quoi? C'est à la fois quelque chose qui est cyclique et perpétuellement mobile. Le ciel change de couleur, de texture, mais en tout cas d'aspect. En même temps, aucune volonté ne le guide, et cependant, il est à la fois constant, mobile, cyclique et toujours d'une certaine manière imprévisible et mobile. Eh bien, l'idée c'est que la conduite de soi et la relation aux autres doit être du même ordre. Confucius, selon ses disciples, répondait à des choses différentes, à des interlocuteurs différents, selon les circonstances. Et se faire comme le ciel, c'est aussi d'une certaine manière se faire sans personnalité volontariste, propre, doué d'un plan qu'il faudrait imposer à la réalité. Et le thème que l'on suit après dans les pensées chinoises, c'est plutôt celui du laisser-faire. C'est celui de l'entrée dans le courant. Alors,
Oui, Jean-François Billetter, j'aimerais bien qu'on écoute ce qu'il va nous dire. Voilà, il est sinologue, il a dirigé le département de langue et de littérature chinoise à l'université de Genève, et il parle d'un personnage évidemment que vous connaissez, Chuang Tzu. C'était au 4e siècle avant Jésus-Christ. On lui attribue à ce personnage la paternité d'un texte essentiel du taoïsme.
Lire Chuang Tzu, c'est un exercice d'assouplissement formidable et aussi d'ouverture d'esprit. Cela rend attentif à des aspects négligés de l'expérience la plus commune, qui est aussi la nôtre. Ça n'est pas seulement la sienne, c'est aussi bien la nôtre. Il y a Charon qui explique à son prince que le geste qu'il utilise pour tailler sa roue n'est pas exprimable par les moyens du langage. Simplement, là, il fait une remarque de bon sens. C'est un fait. Il nous rend attentif au fait que les gestes qui sont le substrat dynamique de notre activité en permanence, sont des choses que nous ne pouvons pas décrire. Décrivez-moi un coup de marteau de telle façon, si je n'ai jamais vu un marteau, et je vous donne uniquement les moyens du langage pour me décrire comment on enfonce un clou dans une planche avec un marteau, vous serez devant une difficulté que Chuang Tzu relève, et relève avec raison. Alors surtout, ne voyons pas là-dedans de l'indicible, une vérité qui serait inaccessible au langage. Enfin, elle l'est en un sens, mais elle l'est objectivement. Il n'y a pas de mystère là-dedans.
Il n'y a pas de mystère. Ouf, il y en a quand même, non, Roger Paul-Droit?
En tout cas, il est circonscrit et je crois qu'il est assez clair comme mystère, à défaut de pouvoir être élucidé. C'est exactement, parce qu'il faut voir les rapports entre ces vieilles philosophies lointaines qui nous paraissent d'une certaine manière dépassées et puis des choses tout à fait contemporaines. C'est la même question chez Wittgenstein. Vous savez, Wittgenstein se donne comme objectif de nettoyer ce qu'il appelle les crampes mentales, c'est-à-dire nettoyer la philosophie. Et évidemment, c'est une tâche immense qui peut prendre toute une vie, mais même des générations.
C'est joli, les crampes mentales, je m'en souviendrai.
Voilà. C'est les faux problèmes que nous croyons consistants qui sont liés à notre rapport au langage.
Voilà. Mais la question de la langue, elle est primordiale, la question des mots. Et notamment sur les questions de traduction aussi, parce qu'il se trouve que la semaine dernière, donc Barbara Cassin était notre invitée, elle est philosophe et elle est philologue, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et elle nous disait que si on ne connaissait pas, par exemple, le grec, c'était presque impossible d'entrer véritablement dans la philosophie grecque. Parce qu'on risquait vraiment les contresens, en fait.
Écoutez, j'ai fait du grec toute ma vie. Je ne crois pas que... Je vois bien ce qu'elle veut dire, mais je n'y crois pas trop. Je crois qu'il est possible de traduire, parce que sinon ça voudrait dire que si on ne parle pas hébreu, on ne comprendra rien à la pensée juive, que si on ne parle pas arabe, on ne comprendra pas les auteurs musulmans, que si on n'est pas sinologue. Et du coup, il faudrait être omnicompétent pour essayer de comprendre quelque chose. Bien sûr, il y a de la perte. Bien sûr, si vous savez le grec, ou j'ai fait un peu de sanskrit à un moment de ma vie, ça change le paysage. Il y a des choses que l'on comprend à l'intérieur d'une langue et d'un vocabulaire en fonction de ses spécificités, de ses capacités de syntaxe. Mais je ne crois pas qu'il faille désespérer les lecteurs en leur disant « si tu n'as pas appris une bonne dizaine de langues plus difficiles les unes que les autres, tu peux laisser tomber ».
Mais quand par exemple, il y a plusieurs mots qui peuvent désigner le mot la sagesse, est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs conceptions de la sagesse? Ça peut être la même chose avec plein d'autres choses, avec le mot bonheur, enfin, mais là, c'est on frise quelquefois, en tout cas, peut-être pas le contresens, mais...
Alors, je crois, sans faire du en même temps à tous les étages, mais je crois qu'il y a, que les deux sont vrais ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des conceptions de la sagesse qui sont liées à des contextes culturels qui sont liés à des langues, qui sont liés à des mots. La hikma de l'hébreu, c'est pas exactement la sophia des Grecs et de loin. S'il y avait une différence, par exemple, c'est que chez les Grecs, il s'agit souvent, même si sophia veut dire d'abord l'habileté manuelle, ce qu'on oublie, c'est le savoir-faire des
doigts. C'est le coup de marteau
doigts.
bien visé.
Absolument.
Et pas sur le doigt.
Malgré tout, il y a chez les Grecs l'idée que la sophia, c'est un savoir pour faire quelque chose. une connaissance philosophique ou logique pour agir dans sa vie. Mmh. Alors que très souvent, et en particulier dans la pensée juive, il s'agit d'un faire pour savoir. Il ne s'agit pas, si vous voulez, d'aimer un savoir qui est déjà là, il s'agit d'aimer quelque chose ou quelqu'un pour le découvrir. Et donc, les processus sont distincts, les manières finalement de se situer aussi. Mais je crois qu'il y a la possibilité de voyager à travers les très nombreuses et souvent très bonnes traductions qui existent, à travers les travaux des spécialistes qui, parlant très bien telle ou telle langue, sont capables d'expliquer aussi les différences et les nuances. Et donc, bien sûr, chaque philosophie porte la marque, pas seulement d'un contexte culturel, mais la marque d'une expression linguistique. On ne pense pas les mêmes choses.
Par exemple, la philosophie juive, il y a une prégnance là de très forte de l'hébreu.
Oui.
Et pourquoi est-ce que la pensée juive a d'abord été opposée, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pas très chaude, disons, regardons un peu la démarche philosophique de travers, avant finalement de la faire sienne.
Parce que, et des spécialistes comme André Néer l'ont bien expliqué, parce qu'il y a la constitution d'une pensée indépendante de l'héritage philosophique des Grecs, et même différente de sa manière d'aborder les choses, qui s'est constituée chez les Hébreux antérieurement.
Il y a eu des vases communicants, même.
Après, il y a eu des vases communicants. Mais l'hébreu comme langue, si vous voulez, il a des spécificités qui ouvrent des possibilités philosophiques différentes. Il y a par exemple un vav conversif, c'est-à-dire vous pouvez transformer un passé en futur et un futur en passé. Dans la même phrase. Oui, mais ça, c'est des choses, si vous voulez, qui sont spécifiques et qui ouvrent, évidemment, des possibilités de pensée. Et ensuite, il y a, sur ce fond, qui est indépendant d'abord de la pensée grecque, il y a une rencontre très féconde, mais parfois très tendue, avec l'héritage grec. Ça commence chez Philon d'Alexandrie, c'est-à-dire le 1er, 2e siècle de notre ère. Ça se poursuit ensuite dans le domaine arabe. Ça se poursuit enfin dans le domaine allemand et européen, avec la, si vous voulez, cette tension que je crois tout à fait importante entre, d'un côté, la discussion de la pensée juive avec l'héritage philosophique grec, pour montrer qu'il y a des points communs, et en même temps, mais cette tension, ouais. C'est en même temps, si vous voulez, être à la fois dans le domaine commenter la Torah en grec, commenter la Torah en arabe, la commenter en allemand, c'est pas la même chose.
Vous évoquiez tout à l'heure, Roger Paul Droit, à Maïmonide, eh bien, un conte juif, précisément, qui circule à son sujet.
Maïmonide, devenu grand, aucun autre juif ne l'égalait en savoir. Néanmoins, Maïmonide n'était pas connu pour sa seule sagesse, mais aussi pour ses remarquables qualités de médecin. Un jour, un puissant sultan égyptien entendit parler des connaissances médicales de Maïmonide. Son médecin venant de mourir, il lui offrait de prendre la place. Une douzaine des meilleurs médecins égyptiens espéraient soigner le sultan, et voilà que l'on donnait la préférence à un étranger, à un juif qui plus est. Notre savoir est tel que nous pouvons rendre la vue à un aveugle de naissance, se vantaient les médecins égyptiens. Pareille chose est impossible, protestait Maïmonide. On ne peut guérir un aveugle que s'il a perdu la vue. Le lendemain, ils firent venir un aveugle devant le souverain. Ce malheureux est privé de la vue depuis sa naissance, proclamèrent-ils. L'un d'eux enduisit alors les yeux du malade d'une pommade odorante. Et l'homme se mit à crier et à danser. « Je vois !» s'écria-t-il joyeusement. « Pour la première fois, je vois !» Le souverain jeta à Maïmonide un regard soupçonneux, mettant déjà en doute ses capacités. Mais celui-ci s'approcha de l'homme guéri et, dépliant un mouchoir devant ses yeux, demanda « Qu'ai-je dans la main ?»« Un mouchoir rouge !» répondit l'homme. Maïmonide sourit et se tourna vers le sultan. « Puissant souverain, fit-il, depuis quand celui qui voit pour la première fois reconnaît-il les couleurs ?»« Alors, le sultan comprit que toute l'affaire avait été montée contre Maïmonide et chassa ses adversaires avec humeur.
Ça vous fait sourire, Roger Paul-Droit.
Oui, c'est une très belle histoire et elle, finalement, c'est un fil qui traverse, pour le coup, plusieurs domaines de la philosophie. Je pense à la lettre sur les aveugles de Diderot qui pose ce genre de questions. Je pense à ce que dit Wittgenstein, qu'il appelle lui le mystique. On en parlait tout à l'heure sur ce qu'on ne peut pas expliquer à travers les mots. Wittgenstein dit, si vous voulez expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu la couleur verte, ce qu'est le vert, comment vous faites? Vous ne pouvez que montrer et lui dire face à une surface verte, tu vois, le vert, c'est ça. Et ce que Wittgenstein appelle le mystique, c'est ça, c'est-à-dire ce qui est en dehors de la possibilité du langage et qui ne peut venir, d'une certaine manière, que d'une expérience directe, extra-linguistique, pour entrer dans ce qui est dicible. Et l'histoire de Maïmonide et du mouchoir rouge, c'est finalement une variation sur cette grille.
Le temps passe très vite avec vous, Roger Paul-Droit. Nous n'avons même pas eu le temps de parler de l'Afrique. Et pourtant, la vitalité, la réflexion philosophique sont là.
Elles sont là de manière contemporaine. J'ai bien évidemment, au temps où j'étais conseiller du directeur de l'UNESCO, j'avais organisé des différentes conférences comme ça dans différentes parties du monde.
J'avais même mené une enquête.
J'avais mené aussi une enquête mondiale sur l'enseignement de la philosophie en 95. Et enfin, j'avais organisé donc un grand colloque sur la philosophie en Afrique. C'était en Côte d'Ivoire en 95. Avec mon ami Souleymane Bachir Diagne, notamment, et simplement, si vous voulez, je dirais d'un mot.
C'est un grand ami.
Oui, il nous reste peu de temps, donc je voudrais juste dire, si vous voulez, que bien évidemment, j'ai été extrêmement frappé par la vitalité des philosophes africains, par leur pertinence, par leur connaissance, mais y a-t-il et comment de la philosophie dans les cultures orales africaines? Je pense que oui. Avons-nous les traces? Pour la plupart du temps, non. Avons-nous la possibilité de les reconstituer? C'est difficile à dire. Donc, c'est aujourd'hui qu'il y a des philosophes. Je ne sais pas avant.
Avec peut-être un inconscient collectif et peut-être est-ce dans leur voyage intérieur aussi qu'ils peuvent le découvrir. Merci beaucoup, Roger Paul-Droit. Un voyage dans les philosophies du monde. C'est un passionnant livre qui est publié aux éditions Albin Michel.
Merci
beaucoup.
À vous.
À suivre Julia Foyce, unique en son genre. Et puis la semaine prochaine, dans l'heure philo, nous recevrons le philosophe Guillaume Durand pour parler de l'utilité de la philosophie à l'hôpital. Un philosophe à l'hôpital, c'est le titre de son livre.